Et c'est parti pour l'air de jeu, l'émission en direct de votre village, en direct proche de vous, avec vous Claire qui êtes sur le terrain. Bonjour Claire, comment allez-vous du côté de Bâle?
Mais bonjour mon cher Mike, ça me fait plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. Et oui, il fait beau, il fait chaud, on est bien installé ici à Bâle. Les auditeurs pourront bien évidemment venir jouer en direct avec nous et rencontrer notre invité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'air de jeu, comme on l'a dit, qui est en direct depuis Bâle, pour une émission qui fait vibrer les mystères invisibles et les énergies discrètes de nos paysages. Pour nous guider, notre invité est une femme à l'écoute du monde et de ses lieux les plus secrets. Joëlle Chauton est druidesse, exploratrice sensible des hauts lieux vibratoires et autrice du guide des énergies en Suisse romande. À travers ses recherches et ses ressentis, elle nous invite à redécouvrir notre territoire avec un regard neuf, celui du cœur, de l'intuition et du lien profond à la nature. Avec elle, nous allons voyager sans prendre la voiture, simplement en ouvrant nos perceptions. Des pierres qui murmurent aux forêts qui accueillent, Joëlle nous emmène dans un dialogue avec les lieux et avec nous-mêmes. Bienvenue dans cette exploration vivante des énergies de la Suisse romande. Bonjour Joëlle et merci d'être avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin dans l'air de jeu.
Bonjour Claire, bonjour tout le monde.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Bâle ?
On va aller dans la forêt, peut-être tout à l'heure, vous et moi ensemble, pour rencontrer cette pierre. Mais c'est un lieu magnifique qui est une pierre à cupule.
C'est quoi une pierre à cupule ?
Des pierres à cupule, c'est des pierres qui ont eu des gravures dessus autrefois. Ça dépend des pierres, mais entre 4000 et 5000 ans. Et ces pierres, elles ont été gravées à une période où ils n'avaient pas encore la sagesse des métaux, donc probablement avec une autre pierre. Et ils ont créé des petites écouelles dessus, à peu près la taille d'une pièce de 5 francs. Et cette pierre, elle en a plusieurs. On en retrouve beaucoup, beaucoup en Suisse, de ces pierres d'ailleurs partout à travers le monde. Et on ne sait pas trop à quoi ça sert. Du coup, c'est quelque chose de très mystérieux. Et moi, j'aime bien les mystères.
Alors, quelle est la particularité de celle qui est ici à Bâle ?
Cette pierre, elle représente quelque chose de très ancien. Et des pierres à cupules, en Suisse en tout cas, on en a plus autant que ce qu'on avait autrefois. Elles ont été utilisées pour construire des maisons. Tous les gens qui utilisaient le granit les ont souvent cassées. Il y a toute une période où ils faisaient pas attention à ce genre de vestiges, malheureusement. Et c'est rare de pouvoir en retrouver, et en plus près de chez moi. Donc voilà, j'habite Bâle, c'est un peu mon coup de cœur.
Quels sont les bienfaits de cette cupule ?
Alors cette pierre, elle en entier, toutes les pierres à cupule de manière générale, elles représentent quelque chose lié à l'abondance, aux offrandes. Donc c'est un lieu dans lequel généralement on se sent bien. Et on aime bien rester, il y a quelque chose de très ouvert, ample. C'est comme si on reprend un peu de l'espace. De toute façon, tous ces lieux, c'est lié à des ressentis corporels qui sont personnels. On ne peut pas vraiment... vu qu'on ne sait pas à quoi ça servait vraiment, on ne sait pas vraiment ce que les gens pourraient ressentir dessus. Mais en tout cas, moi personnellement, je ressens beaucoup de sensations de bien-être sur cette pierre. J'aime bien y aller. Et puis je me recharge comme ça pendant 2-3 minutes et puis après je continue ma balade. Il faut savoir qu'il y a d'autres pierres à cupules dans la forêt de Bâle, mais j'ai choisi celle-là parce que elle est dans un endroit particulier dans la forêt qu'on appelle le Merdasson, qui porte un nom étrange, mais c'est parce qu'autrefois les gens s'en mettaient plein les bottes, donc c'est pour ça ce nom-là. Il portait aussi le nom de Creux aux Cerfs, donc j'aime bien ce nom-là qui est un peu plus poétique.
Nous allons passer à notre premier jeu qui est celui-ci.
L'air de jeu, le défi.
Le défi, vous allez devoir nous apporter un ou deux objets, l'objet de votre choix. Et le cadeau, c'est un cadeau que vous allez faire, ma chère Joëlle, à la première personne qui va venir.
Alors j'ai envie d'offrir à la première personne qui relèvera ce défi le livre que j'ai sorti il y a un mois qui s'appelle « Le guide des hauts lieux d'énergie de Suisse romande » qui est paru aux éditions Favre avec une jolie dédicace à l'intérieur.
Il faut maintenant annoncer l'objet du défi. On en a choisi deux. Alors, vous pouvez nous les décliner ?
Oui, alors j'ai d'abord choisi une feuille de chêne Et Claire avait peur que ça soit un peu difficile, alors elle a choisi, elle, plutôt une pierre. Donc vous pouvez choisir entre le défi difficile ou le défi facile, mais je compte sur vous pour relever le défi difficile, qui est la feuille de chêne.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Mais l'air de jeu, effectivement, qui a posé ses valises, posé sa table et qui a pris place à Bôle. À Bôle, où exactement? L'air de jeu se trouve sur la route qui monte direction Rochefort. Sur la droite, vous pourrez voir Claire et Joël vers le terrain de foot pour situer. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, dans la région, ou si vous avez prévu de vous rendre sur Neuchâtel, pourquoi pas vous arrêter vers Claire et Joël pour leur faire un petit bonjour et pourquoi pas ramener avec vous le défi du jour. D'ailleurs, Claire, on le rappelle, hein, ce défi, c'est un défi en deux temps, soit le défi facile, soit le défi difficile. Le défi difficile, c'est une feuille de chêne, qui pour moi est plutôt un défi facile. Et le défi facile, c'est une pierre. C'est juste, Claire?
Mais tout à fait, vous avez tout compris, vous avez bien suivi, Mike, bravo. Et puis, les auditeurs peuvent aussi venir jouer avec nous jusqu'à midi. On a des questions et on a des cadeaux à vous offrir. Toujours avec Joël Chautan, qui est druidesse. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi être druidesse? Bon, on pense à druide, hein, Panoramix dans Obélix, mais vraiment, pour vous, c'est quoi?
Pour moi, être druidesse, c'est représenter une sagesse passée. Les druides, c'est les sages des Celtes. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une façon d'honorer le passé, les savoirs très anciens, et de les reproposer aujourd'hui avec quelque chose d'accessible qui permet aux gens de se remettre en lien avec la nature, les cycles, la forêt, les saisons, les rites saisonniers. Donc c'est tout un art du lien avec le vivant. Et puis derrière tout ça, le rôle du druide, c'est de représenter la paix.
J'imagine que ça a été un long chemin pour y arriver. Qu'est-ce que vous avez dû faire? Quelles ont été les étapes?
Alors, traditionnellement, le temps pour devenir druide, c'est 18 ans, qui représente une lunaison complète. La lune, elle a des cycles dans le ciel, et ce qu'on appelle une lunaison dure 18,6 ans. Et devenir druide, c'est une lunaison complète. Et pour moi, ça a duré aussi exactement ce temps-là, un peu par hasard, entre guillemets, entre le moment où j'ai commencé mes études de druidisme. Donc il faut savoir qu'avant, je suis droguiste, herboriste, donc je connais déjà bien les plantes à la base. Et puis ensuite, il a fallu apprendre plein d'autres choses, entre autres la mythologie, le lien avec le monde magique, le monde invisible, ce qu'on appelle le monde invisible, toute la mythologie autour de l'histoire, la cosmogonie. Et puis, c'est un art d'être qui demande beaucoup de temps aussi pour avoir une posture qui représente la paix. Et puis, connaître les rites. Enfin, c'est énormément de connaissances, les étoiles. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La poésie, l'écriture. Et pour moi, c'était un long chemin, mais en même temps un chemin passionnant. Et puis, c'est au bout de ce temps-là qu'un druide breton m'a dit « Ah tiens, je pense que là, t'es prête si t'as envie. L'été prochain, je te nomme druidesse. » Ça m'a demandé un petit temps de réflexion parce que ça veut dire aussi se poser dans cette posture et puis représenter au sein du clan, comme on le dit. Donc ça veut dire aussi s'engager à faire tous les rites et puis représenter cette posture au quotidien. Et puis ça a été une évidence pour moi de dire oui à cela. Donc on s'est rendu en famille en Bretagne pour la cérémonie d'initiation pour recevoir mon nom de druidesse.
Et c'est lequel?
C'est Adana. Adana, ça, c'est quelque chose qui représente la sagesse ancienne et le lien entre toutes les traditions. Parce que dans ma démarche, je cherche à faire le lien entre toutes les religions et les traditions du monde. Pour moi, le druidisme, il s'oppose à aucune religion, mais il cherche plutôt à trouver ce qui nous relie tous en tant qu'êtres humains. Et ce qui fait qu'ensemble, on arrive à s'entendre et à trouver la paix au sein de l'humanité. Donc c'est ce que j'avais envie de représenter et ce nom-là, il me représentait très bien.
On voit que dans le druidisme, le mot qui vient en tête, c'est paix. C'est vraiment le mot qui définit le druidisme.
Alors le mot druide, ça veut dire la sagesse du chêne, d'où le défi d'aujourd'hui de la feuille de chêne. Ça veut dire le sage du chêne parce que le chêne, il représente le début de toute chose. C'était, en fait, au début de toute chose, il y avait un arbre, c'était un chêne, et puis c'est à partir de ce chêne, tout est né. Et ce chêne, il représente la paix, et donc du coup, le rôle du druide, c'est d'être autant sage que le chêne. Et donc de représenter la paix, c'est essentiel, et aussi la paix entre les mondes, parce que le rôle du druide fait aussi le lien entre le monde spirituel et le monde matériel, donc le monde des esprits ou le monde des dieux. Il faut savoir que c'est une tradition polythéiste, c'est pas une religion mais une spiritualité. Et donc du coup on cherche bien sûr qu'il y ait la paix dans le monde des dieux pour qu'il y ait la paix dans le monde des hommes et inversement. Et le druide se place un peu à cheval entre ces deux mondes et cherche à mettre la paix de tous les côtés. D'ailleurs les druides étaient très souvent aussi des politiciens, des médiateurs au sein de la société ancienne. Ils avaient plein de rôles, conseillers aussi, et ils cherchaient toujours à essayer de maintenir un état de paix si possible entre les clans, même si les Celtes étaient très doués à la guerre et à conquérir des régions, mais pas forcément tel qu'on pouvait le voir avec d'autres peuples, mais plus parce qu'ils étaient très doués dans plein d'arts et les gens aimaient reproduire ce qu'ils faisaient.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
L'air de jeu qui est en direct du village de Beaule avec Joël Chautan qui est druidesse. Claire, avant Joël nous racontait son nom de druide, Adana, mais moi je me demandais comment est-ce qu'on définit un nom de druide, qui nous le donne, quels sont les éléments qui font que vous vous appelez Adana maintenant?
C'est une bonne question. C'est le druide qui m'a initié druidesse, qui m'a donné ce nom. Alors, il m'en avait choisi un autre à la base. Et puis, j'étais pas complètement convaincue. C'était Modana. Et je sais pas pourquoi ça me faisait penser une machine à coudre. Alors, du coup, j'ai dit, j'aimerais bien un petit peu le travailler. Et puis, c'est dans un rêve pendant la nuit que j'ai entendu ce nom. Et puis je lui ai proposé et ça faisait sens pour lui. Et voilà, c'est comme ça qu'il a dit oui à celui-là. Mais c'est un peu un accord entre deux personnes. Mais souvent, c'est plutôt le druide qui initie, qui choisit pour celui qui se fait initier.
Voilà, ça répond à votre question, mon cher Mike.
Absolument.
Et puis, vous le savez, Joël a plus d'une corde à son arc, elle s'intéresse à beaucoup de choses, dont la géobiologie. Alors, en quelques mots, Joël, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la géobiologie?
Eh bien, dans le rôle de druidesse, on parlait du rôle de la paix. Et la géobiologie, elle représente la paix dans l'habitat et aussi dans les lieux au sens large. Géobiologie, ça veut dire l'étude du sol vivant. Et puis, le rôle du géobiologue, il est rarement dans la nature parce que il n'y a plus vraiment de personnes qui créent des lieux de paix dans la nature, malheureusement, mais on aimerait bien qu'il y en ait de plus en plus. Mais dans l'habitat, c'est très pratique, c'est très utile. Ça permet de rétablir l'harmonie dans un lieu de vie en étant à l'écoute des sources qui passent sous la maison, des matériaux de construction, des antennes GSM et de tout ce qui pourrait générer une perturbation, en tout cas perturber l'harmonie dans un lieu de vie pour permettre aux personnes qui y habitent d'y vivre bien.
Ça veut dire qu'on fait un petit peu un nettoyage avec des plantes, avec quoi exactement?
Alors c'est un long temps qu'on prend dans le lieu, je compte entre 4 et 5 heures par lieu de vie. C'est vraiment un temps aussi avec les habitants pour voir qu'est-ce qu'ils souhaitent eux dans leur lieu de vie, parce que finalement la notion d'habitat est variable pour chaque personne. Il y a des gens qui aiment bien que ça soit très vivant, qu'il y ait beaucoup d'objets, il y en a d'autres qui aiment bien que ça soit très épuré, donc c'est vraiment très très variable. Et puis on va chercher ensemble ce qui permet d'harmoniser. Donc ça peut être par des objets à changer de place, des lits à déplacer, ça peut être aussi en purifiant avec des plantes. Donc là moi j'utilise que des plantes régionales, c'est aussi mon rôle de conseillère en géobiologie, de druidesse, de rappeler l'importance de tout ce qui est près de chez nous. On dit que la plante qui nous guérit, elle pousse dans un rayon de 10 km autour duquel on habite. Donc pareil pour les lieux. Et les Celtes aimaient beaucoup purifier les lieux avec l'absinthe. Donc je sèche de l'absinthe, c'est une autre utilisation que celle du Val de Travers. Je sèche de l'absinthe que je vais chercher dans la nature et puis je la brûle dans les lieux pour permettre de rétablir l'harmonie, mais pas que. En fait, c'est pas juste voilà, brûler une plante, c'est vraiment tout un travail énergétique autour, avec des mots prononcés. Voilà, c'est un long temps en fait qu'on prend vraiment pour honorer le lieu et lui redonner sa place. C'est un beau moment avec les habitants.
Vous qui habitez le Val de Travers, mon cher Mike, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant
pour
un petit peu améliorer votre maison.
Et surtout découvrir l'absinthe différemment, que je ne connaissais pas, qu'on pouvait l'utiliser justement pour ces bienfaits-là.
Eh oui, on apprend tous les jours plein de choses. Donc, on vous rappelle que vous pouvez venir jouer avec nous. Et puis, peut-être nous rappeler le défi, mon cher Mike.
Absolument, le défi du jour, si vous êtes dans le coin ou alors prenez votre voiture, votre vélo ou peu importe comment vous souhaitez vous rendre à Bôle, il faut amener à Claire et Joël une pierre, un caillou. Ou alors, le défi un tout petit peu plus difficile, c'est trouver une feuille de chêne qui serait par exemple tombée d'un arbre. Si vous vous rendez sur place, il y a des choses à gagner en vous rendant donc à Bôle avec l'un de ces deux objets. Et puis Claire, moi j'ai également un défi pour vous, mais je sais pas à quel moment exactement je dois vous le lancer.
Oh, vous pouvez nous le lancer maintenant si vous voulez, et puis on essaiera de le réaliser. On vous écoute attentivement, Mike.
Ouais, je pense que c'est bien de le lancer maintenant parce qu'il vous faudra un peu de temps, à mon avis, pour le réaliser. Donc, que vous ayez quand même justement le temps de le faire. Alors, écoutez bien, Joël et Claire, le défi que je vous lance, c'est de créer une couronne tressée à partir de plantes, de fleurs, de feuilles ou de brindilles. Et puis, une fois que cette couronne sera faite, Joël devra vous trouver un nom de druide temporaire. Attention, Claire, parce que vous n'avez...
Chou.
Oui, mais vous voyez, vous n'avez pas l'entier de la formation pour l'aide, donc ça sera temporaire le temps de l'émission. Vous aurez le droit de porter ce nom uniquement.
Ah, c'est très joli.
C'est un très beau défi, merci.
Voilà.
Est-ce qu'il est réalisable?
C'est presque trop facile.
Presque trop facile. Ouh là là, alors attendez, là on va demander l'aide des auditeurs. Écrivez-moi sur WhatsApp pour trouver un défi plus difficile pour jouer avec Claire.
Il est bien votre défi. On va réaliser votre défi, Mike.
Très bien, Claire. Bon, on se retrouve tout à l'heure.
10h, midi, envie de prendre l'air. L'air de jeu.
L'air de jeu qui a pour thème ce dimanche les hauts lieux d'énergie, puisqu'on est en compagnie de notre invité Joël Chautan alias Adana, qui est druidesse. Claire et Joël sont à Bôle, proche du terrain de foot. Donc si vous êtes dans le coin, rendez-vous du côté du terrain de foot pour faire une petite visite à Claire et Joël. Et d'ailleurs, je crois que Claire, vous avez un petit peu de monde qui commence à arriver proche de vous. On va probablement jouer tout à l'heure. On va parler encore de ces énergies de manière générale.
Tout à fait, Mike. Et nous avons avec nous Jean-François. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bonjour Patricia.
Mais bonjour Claire.
D'où venez-vous ?
De Brutelen, dans le canton de Berne.
Mais vous n'avez pas du tout l'accent suisse-allemand.
Non, nous sommes des bons Neuchâtelois qui avons dû déménager pour le travail de mon mari.
Est-ce que vous regrettez un petit peu le canton de Neuchâtel ?
Oh oui.
Vous étiez d'où ?
Du
Val de Travers.
On était à Fleurier avant.
Et tout à l'heure, eh bien, elle nous expliquait, Joël Chautan, qu'avec l'absinthe, elle l'a fait sécher et ensuite elle la brûle dans les maisons. Et ça fait du bien, hein, ça purifie, on va dire.
Oui, ça permet de purifier et rétablir les énergies dans une maison.
Voilà, comme quoi, hein, l'absinthe, on peut faire plein de choses avec.
Pour la boire, quoi.
Nous allons jouer, voici votre jeu.
L'air de jeu, culture générale.
On va s'intéresser aux pierres. Il y a trois questions, il faudra me donner en tout cas deux bonnes réponses pour empocher une carte cadeau Landi de 30 francs. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ?
C'est tout bon.
Comment se nomme la roche volcanique très poreuse et de faible densité qui peut flotter à la surface de l'eau ?
Oui, elle est toute légère, elle a des petits trous.
Pierre Ponce. Oui, c'est la pierre Ponce. Bravo Patricia. On passe à la deuxième question. Quelle pierre précieuse de couleur rouge symbolise 35 ans de mariage ?
Je dirais le rubis.
François, effectivement, c'est le rubis.
Nous, on n'y est pas encore, on n'est qu'à 25.
D'accord. Vous saurez quoi lui offrir. Hein ?
Voilà, c'est tout bon.
On passe à la dernière question, mais c'est gagné. Quel est le nom de la pierre que porte sur son dos Obélix ? C'est un...
Menhir.
Sans hésitation, vous avez lu Obélix.
Beaucoup, oui.
Donc, vous connaissez bien Panoramix.
Panoramix qui va chercher toutes les herbes pour sa potion magique.
Voilà, alors je ne sais pas si notre invité Joël Chautan fait de la potion, ça vous arrive?
Ça vous intéresse, hein?
Oui.
C'est un secret.
Ah, c'est dommage.
Bien sûr, j'en fais plein des potions magiques.
Et elles servent pour le bien-être, ça sert à quoi en fait ces potions magiques à base de plantes j'imagine?
Bah, comme à la base je suis droguiste, j'aime beaucoup faire mes remèdes moi-même. Dans les potions que je crée, bah, c'est principalement des potions à base d'arbres et de plantes. Donc je fais des teintures mères et de la gémothérapie pour la famille et les personnes proches de moi.
C'est génial. Eh bien bravo Jean-François et Patricia, c'est gagné. Vous empochez cette carte cadeau lundi. On vous souhaite une bonne suite de dimanche. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Là on va aller promener un peu dans les forêts ici autour de Bôle.
Oui, un peu de nostalgie comme ça. On retrouve notre canton, nos forêts.
Alors, vous pouvez aussi, on va peut-être leur dire d'aller voir cette pierre, hein, cette cupule. Expliquez un petit peu par où il faut y aller.
Alors, ben là, on est à l'endroit où il y a le parking du terrain de foot de Bôle. Et puis, ben, on voit qu'il y a la forêt qui commence quand il y a la route qui monte à Rochefort. Et là, il y a un chemin en gravier qui part à gauche, là-bas au bout, qui longe le champ de maïs actuel. Et il faut aller jusqu'au bout de ce chemin avant qu'il entre dans la forêt et prendre le sentier de droite. Et on le longe sur 200-300 mètres. Je ne suis pas très douée avec les distances. Et la pierre, elle est assez grande. Elle fait 2-3 mètres de long sur à peu près 1-1,50 mètre de haut. Elle est posée à droite du chemin, vraiment presque sur le chemin.
Voilà, donc allez voir cette pierre qui va vous redonner de l'énergie.
On ne va pas manquer, on va y aller.
Merci beaucoup Claire aussi pour votre gentillesse. Ça fait des années que je vous entends et je vous trouve super.
Mais c'est gentil, ça me touche. Merci beaucoup Patricia. Au revoir.
Au revoir.
Et Claire, nous on va se retrouver tout à l'heure pour continuer à parler de ces lieux d'énergie. Pourquoi pas parler un peu de ces potions que prépare Joël et quels sont les bienfaits que ça peut amener. Vous riez, pourquoi vous riez? Dites-moi tout.
Vous m'étonnez. Vous pensez peut-être qu'il y a des feuilles d'absinthe dans ces potions?
Bah alors ça, j'imagine vu tous les bienfaits de l'absinthe. Non mais je suis intéressé si par exemple une potion pour ne plus être fatigué existe ou non. Mais peut-être une potion un peu plus réaliste qui permettrait de garder une bonne vitalité ou ce genre de choses. On va lui poser ces quelques questions tout à l'heure. On se retrouve après, Claire.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
L'air de jeu qui a pris ses quartiers à Bôle du côté du terrain de foot, proche du terrain de foot, avec Claire qui est à l'extérieur, évidemment, accompagnée de Joël Chautan qui est de Ruidès. Et puis tout à l'heure, Claire et Joël, on parlait justement de ces potions magiques. Alors on appelle ça une potion magique, mais dans les faits, c'est plutôt un mélange de plantes, j'imagine, Joël. Et au final, quels sont les bienfaits de ces différents mélanges? Et est-ce qu'on les boit? Est-ce que ça se mange? Comment est-ce qu'on utilise ce genre de choses?
Bon, alors déjà, il faut préciser qu'il y a des lois très strictes en Suisse pour la vente de ce genre de produits. Donc en fait, je ne peux que les utiliser dans mon cercle familial. Et bah, je les fais toujours au printemps pour toute l'année complète. Et j'ai mon stock de petites potions. Et ça, c'est des choses qui se boivent en fait. C'est des gouttes qu'on mélange dans de l'eau ou qu'on met directement dans la bouche. C'est à base d'alcool qui est fait avec les alcools de fruits des arbres de mon jardin. Donc c'est vraiment toute une histoire, vous voyez, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de sens pour moi et qui est fait avec des choses locales, des plantes du jardin ou de la forêt près de chez moi. C'est important pour moi que ça soit des choses qui viennent de la région d'où on est.
Et Joël, vous l'avez dit, c'est plutôt local, mais sur le marché, est-ce qu'on peut quand même trouver quelque chose d'un peu similaire ou pas du tout?
Oui, alors il faut vous rendre dans des drogueries. Par exemple, ben, il y a la droguerie Rogen qui est de l'autre côté du lac, je crois, vers Estavayer, où il a écrit un livre qui s'appelle, il me semble, le druide ou les recettes du druide ou quelque chose comme ça. Ben, lui, en fait, c'est un droguiste qui a les connaissances druidiques dans les plantes et vous pouvez trouver plein de potions chez lui et plein d'autres remèdes que vous pouvez trouver dans des drogueries. Je sais qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais vous pouvez encore trouver des anciennes drogueries avec des remèdes super faits à base de plantes de chez nous. Il faut savoir que pour faire valider les remèdes, ça coûte très cher. Donc, c'est des choses... qui demande d'avoir pas mal de masse à vendre pour pouvoir valider ce genre de remède.
On parle évidemment aussi de votre ouvrage, hein, ce guide des hauts lieux d'énergie en Suisse romande. Vous en avez visité 56. Mais c'est quoi exactement un haut lieu d'énergie, Joël ?
Alors, un haut lieu d'énergie, c'est un lieu dans lequel on se sent bien, où on aime être, où on ressent qu'il y a quelque chose de particulier. Donc, un haut lieu d'énergie, c'est... Ben déjà, c'est un lieu où il y a beaucoup d'énergie et le seul moyen de comprendre qu'on est dans un haut lieu d'énergie, c'est le ressenti corporel, qui de nouveau varie pour chaque personne parce que c'est quelque chose de vivant. Donc généralement, ce qu'on ressent dans un haut lieu d'énergie, c'est du bien-être, de l'amplitude, la sensation de pouvoir déposer nos soucis et de pouvoir avoir un espace de ressources. On ressent généralement aussi une sensation d'apaisement général et de libération de stress. Après, ils sont dans la nature et c'est généralement des lieux qui ont une histoire, qui sont connectés avec un moment dans un ancien temps. Par exemple, typiquement les pierres à cupules, des menhirs, des cercles de pierre ou d'autres types de ce lieu. Mais ça peut aussi être des églises. Ça peut être plein d'endroits. Mais c'est des lieux qui sont généralement naturels.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
L'énergie, les hauts lieux d'énergie, c'est le thème de cette émission de l'air de jeu qui est à l'extérieur en direct du village de Baule. Claire, vous êtes sur place, vous êtes accompagnée de notre druidesse Adana, Joël Chautan. Vous avez, pendant les informations, réalisé le défi que je vous avais lancé, sauf erreur, c'était de confectionner une couronne tressée à partir de plantes, de fleurs, de brindilles, de feuilles, enfin bref, de tout ce que vous trouviez sur place. C'est réalisé ?
C'est réalisé et je peux vous dire que notre invité, Joël Chautan, a des mains de fée, des doigts de fée, car elle a réalisé une magnifique couronne. D'ailleurs, je vous ai envoyé une photo, comme ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte du travail qu'elle a réalisé en très peu de temps. Hein.
Je confirme, c'est magnifique, vraiment, bravo.
Ah, elle est magnifique. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les végétaux que vous avez utilisés ?
J'ai choisi d'abord du lierre, parce que le lierre, il fait le lien entre les mondes. Et puis, je trouve que vous êtes une personne, Claire, qui fait le lien entre du monde. Vous faites le lien avec des gens qui vous écoutent et le lien avec des personnes qui ont des arts ou des métiers particuliers. Et vous avez le don de pouvoir les honorer. J'avais envie de choisir le lierre pour vous. Et puis, ensuite, j'ai mis de l'achillée millefeuille, qui est la plante des femmes. C'est vraiment une plante pour la guérison de plein de petits soucis féminins qu'on prend généralement en tisane. C'est une plante majeure du druidisme. J'ai pas pu m'empêcher de mettre une plante de la famille des absinthes. L'Artemisia vulgaris, qui est en fait, on l'appelle l'armoise vulgaire, qui est une plante qui pousse au bord des chemins, mais qui est pleine de vertus, entre autres digestives. Et c'est une des plantes que j'aime beaucoup sécher pour purifier les maisons. Et puis, il y en avait à 10 mètres de nous, là, au bord de la route. Donc, j'ai profité de vous en mettre. J'ai mis de la centaurée, qu'on utilise aussi pour faire du café. Donc, je me suis dit, je vous mets un petit peu de centaurée. Comme ça, ça vous fait votre petit boost du matin quand vous portez la couronne. Et puis ensuite, après, y a plein d'autres petites plantes. Il y a des ombellifères et puis des petits chardons, mais sans les picots, je vous rassure. Le chardon, c'est aussi le symbole de l'Écosse et des pays du Nord. Donc voilà.
Elle est magnifique. En tout cas, bravo. Défi relevé, ma chère Joël.
Pas tout à fait, Claire. Hein. Attendez, c'est le 50% du défi.
Ah oui,
il manque l'autre partie.
Oui, après, elle va me la poser sur la tête. Et, alors, je ne sais pas si elle a déjà choisi un nom.
J'ai choisi un nom pour vous. Ah, vous voulez l'entendre ?
Oui.
Alors, je vous le pose sur la tête. Et puis, en même temps, alors, Claire, aujourd'hui, pour cette émission, je vous nomme Figadair, qui en écossais, peut-être que je le prononce mal, c'est la tisseuse, Figadair.
Oh, Figadair. Vous retenez ce nom, mon cher Mike ?
Absolument, Figadair. Je vais vous appeler comme ça jusqu'à la fin, d'ailleurs.
Et pourquoi la tisseuse ?
parce que vous représentez bien celle qui tisse des liens, comme le lierre le fait, entre les auditeurs, les qualités des gens, les personnes. Vous êtes quelqu'un qui aime l'humain profondément et qui est d'une extrême douceur et d'une immense gentillesse. Les gens vous le disent toujours quand, d'ailleurs, j'ai vu là aujourd'hui, les gens vous disent « Ah, Claire, vous êtes une personne merveilleuse. » Et ça se voit, vous êtes quelqu'un de tellement gentil.
Ouh, vous allez me faire pleurer. C'est touchant ce que vous dites, Joël. Ah, ça me touche profondément.
Envie de prendre l'air, jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Ça a été un travail de longue haleine hein, pour sélectionner ces 56 sites que vous présentez dans votre guide. Comment vous les avez répertoriés ?
Alors, ça a été beaucoup de recherches et d'études sur le terrain. Donc, j'ai déjà recherché au niveau archéologique ce qui pouvait s'y trouver. Et puis ensuite, j'ai des relevés de sites mégalithiques qu'on peut trouver en Suisse. Il y a des gens qui relèvent ce genre de sites. Et j'ai eu la chance d'hériter d'un monsieur qui venait de Verbier, une dizaine de classeurs fédéraux. Il était passionné de la détection de ces pierres. Et quand il est décédé, ses enfants ont cherché quelqu'un à qui offrir ces classeurs et ils m'ont offert ces classeurs. Et c'est un cadeau inestimable parce que lui, il avait fait énormément de recherches. Il les avait pris en photo et il avait imprimé les photos sur du papier photo comme ça se faisait autrefois. Et il les avait tous mis dans des classeurs avec des cartes. Et c'était un cadeau magnifique. Et ensuite, j'en ai visité plus de 200 pour en arriver à 56. Parce que il y a plein de lieux qui ont besoin d'être préservés. Il y a des lieux qui sont sensibles, qui ne vont pas supporter forcément d'avoir beaucoup de monde qui viennent dessus. Donc j'ai fait attention de pouvoir mettre des lieux qui allaient supporter un petit peu plus de visites que d'habitude. Et puis qui étaient aussi déjà un petit peu connus et qui méritaient d'être encore plus connus. Donc voilà. Et les autres, les secrets, ils restent secrets.
Alors, on a Jean-François et Patricia qui reviennent de leur petite balade. Est-ce que, Jean-François, vous avez pu découvrir cette pierre dont vous a parlé Joël ?
Oui, on l'a découverte et grâce au livre, on l'a trouvée. Sinon, on ne l'aurait pas trouvée parce qu'elle n'est pas vraiment sur le chemin. Donc, c'est très intéressant d'aller la voir.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette pierre ?
Eh bien, je l'ai touchée. Du long, j'ai senti, on a cherché les cupules. Ça dégageait quelque chose en fait.
Vous avez ressenti quelque chose ?
Oui, parce que moi je suis quelqu'un très très sensible. Donc oui, j'ai ressenti quelque chose. Et on va faire des photos chaque fois qu'on ira voir une pierre. Oui, on va suivre le livre de Joël et chaque fois on se fera une photo souvenir de l'endroit où on est allé. Et on va en parler à nos amis aussi. Voilà.
Ah ça c'est sympa. Et qu'est-ce que vous avez ressenti vous Jean-François puisqu'on vous voit assis sur cette cupule ?
Alors ressenti c'est difficile à dire, moi je suis peut-être moins sensible que mon épouse mais c'est toujours agréable de toucher une pierre et de sentir un peu la force parce que c'est incroyable quand même du granit soit chez nous donc c'est assez fou ça.
Justement Joël, est-ce que les femmes sont peut-être plus réceptives que les hommes dans ce domaine-là ?
Ben oui, en fait, j'avoue.
Elles ont une autre sensibilité.
Mais je crois que c'est une histoire d'éducation, parce que le truc, c'est que les hommes, ils sont éduqués un petit peu à rien dire, à faire mine qu'ils ont rien, qu'ils souffrent pas, qu'ils ont pas mal. Et donc, du coup, ils se sont coupés à travers leur éducation, souvent de leur corps et de leur ressenti, parce qu'on valide pas le ressenti chez les hommes dans l'éducation, enfin, en tout cas autrefois. Maintenant, ça change. Et on trouve des hommes adultes qui sont autant sensibles que les femmes. Mais autrefois, on accordait plus d'espace émotionnel et ressenti à l'éducation des petites filles que des petits garçons qui devaient être costauds, qui ne devaient pas montrer leurs émotions. Et donc, du coup, c'est clair que ça coupe du corps.
Ben voilà, je ne sais pas si vous êtes comme ça, Mike, ou si vous avez quand même une certaine sensibilité.
Alors moi je dois avouer que j'ai quand même une certaine sensibilité. Je ressens aussi assez les énergies, j'aime bien ça. Donc oui, j'ai une sensibilité.
Envie de prendre l'air, jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Et cette air de jeu qui se poursuit, qui se continue en direct du village de Baule avec Joël Chautan qui est de Ruides et Claire alias Figuédaïr.
Figuier d'Aïr, c'est
Figuier
ça.
Figuier d'Aïr, voilà, c'est ça, juste.
Oui,
ouf.
Mais sûrement qu'on prononce ça super mal. Hein. Je dis ce que j'ai lu. c'est les prononciations gaéliques, c'est ouf.
C'est pas facile. Donc, on revient sur cet ouvrage hein, qui est sorti il y a quelques semaines, ce guide des hauts lieux d'énergie de Suisse romande, 56 sites à découvrir. Est-ce que vous avez ressenti, Joël, des différences d'énergie entre les différents cantons, par exemple, entre celui de Neuchâtel et du Jura ?
Alors oui, parce que ça dépend beaucoup de la nature du sol. Les hauts lieux d'énergie sont très en lien avec les types de roches qu'il y a dans le sol. Et puis au Jura, il va y avoir principalement du calcaire. Et les glaciers, ils ne sont pas forcément venus jusque-là, lors de la dernière glaciation, la glaciation de Wurmes. Eh bien, les glaciers, le glacier du Rhône, qui était énorme, il est venu buter contre le bas du canton de Neuchâtel et il a déposé des pierres granitiques. Donc, les pierres granitiques qu'on trouve chez nous, c'est des restes, des souvenirs de cette dernière glaciation. Et nos ancêtres utilisaient beaucoup ce type de pierre, le granit, pour faire des sites sacrés.
Est-ce qu'il y a différents sites que vous avez répertoriés qui concernent le canton de Neuchâtel ou est-ce qu'il y a ces sites d'énergie ici ?
Oui, alors j'en ai mis plusieurs dans le canton de Neuchâtel. Ben, il y a celui de Baule, il y a la forêt du Devon. J'ai mis un site dans la forêt près de l'Ermitage à Neuchâtel, dans la zone vers la Coudre. Il y a une pierre à cupule magnifique là-bas. Pour ceux qui connaissent, c'est vers l'endroit quand on monte en-dessus de la Coudre, en fait. Voilà. Et puis, près de Fontaine-André, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai mis un menhir un peu particulier parce que lui, il est en calcaire et c'est le menhir de Combasson qui est dans la vallée de la Brévine. Donc c'est un endroit très très particulier et puis c'est très rare de trouver des menhirs en calcaire. Donc voilà, j'ai mis cette pierre-là et puis il y en a plein d'autres, je crois que j'en ai mis une dizaine dans le canton de Neuchâtel.
Moi j'ai bien aimé et je me suis intéressée justement à la grotte aux fées. Hein, qui surplombe le Val de Travers. Et puis ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est bien expliqué et à chaque fois une petite légende.
Oui, alors pour chaque lieu, j'aime bien retracer l'histoire parce que quand je les présente dans l'ouvrage, j'aime bien raconter ce que j'y ressens, mais bien sûr aussi un peu l'aspect historique, archéologique ou les contes et légendes qu'il y a autour. Et puis dans la grotte aux fées, il y a une jolie légende de fées qui habitaient à l'intérieur et qui maintenant ont dû partir, mais qui protègent encore ce lieu.
Est-ce que les fées font partie du druisme ?
Oui, en fait, comme la nature est considérée comme une expression du sacré, du un, ce qu'on pourrait appeler la source de toute chose, quel que soit le nom qu'on lui donne, et cette source a généré toute chose, de se relier à la nature, c'est une façon de se relier à la source de toute chose, et la nature est considérée comme sacrée, et donc du coup, la nature va être habitée par ce sacré. Et ce sacré peut être représenté par ce qu'on appelle le petit peuple, donc les fées, les lutins, les gnomes, et il y a plein d'histoires de fées. D'ailleurs, à peu près tous les mégalithes, quand on lit les légendes autour des mégalithes en Europe, quasiment tous, c'est une histoire de fées qui, pendant la nuit, ont déposé les pierres à cet endroit-là. Quasiment toutes les légendes de mégalithes tournent autour des fées. Et quelques autres, ça serait un énorme ogre ou un troll ou un géant qui aurait été fâché, qui aurait creusé une rivière. Et en creusant la rivière, il aurait jeté des cailloux en l'air et ça aurait créé des sites mégalithiques autour.
Comme c'est joli, hein, ces légendes. Ben voilà, Maïk, on va continuer dans notre lancée. Vous parlez donc de ces sites d'énergie. Et vous, Maïk, est-ce que vous en connaissez des sites d'énergie du canton de Neuchâtel ? Est-ce que vous connaissez cette grotte aux fées ?
Et non, je ne connaissais pas, mais ça m'intéresse. Donc, je suis tout ouïe, en tout cas, quand vous en parlez. J'écoute ça attentivement, là, ici, au studio à Marin.
Et bien voilà, vous saurez où aller vous ressourcer.
Absolument, je note, à tout à l'heure.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Et vous êtes dans votre émission préférée du dimanche matin, l'air de jeu, qui est en direct de Bôle avec notre invité Joël Sautan qui est de Ruidès.
On a plein d'essences autour de nous, des arbres qui nous parlent, qui nous apaisent. Et c'est ça un petit peu justement, ces bienfaits énergétiques. Joël Sautan, comment est-ce qu'on peut repérer un haut lieu d'énergie, par exemple lors d'une balade? Est-ce qu'il y a des gestes simples peut-être aussi à faire pour se connecter à un lieu? Je sais pas moi, une respiration, un silence, toucher la pierre par exemple?
Alors, on le reconnaît souvent parce qu'on a envie de s'y arrêter. C'est un endroit où tout d'un coup notre corps va naturellement ralentir et puis on aura envie de passer un temps là. C'est important d'écouter ce genre d'appel parce que des fois on est tellement dans notre tête et puis on a tellement un but de balade précis qu'on on passe à côté de ce genre de moment et c'est dommage. Et puis ensuite quand on a repéré ce genre de lieu, et ça peut être des lieux tout à fait anodins, parce que ces hauts lieux d'énergie sont définis aussi par des forces qui viennent de la Terre, donc il peut y avoir rien de bien visible en fait en surface de la Terre. On peut peut-être se dire, mais tiens, c'est au milieu d'un chemin, mais là c'est spécial. Donc on va ralentir, on peut s'asseoir un moment par terre, on peut aussi prendre le temps de toucher la pierre si c'est vers une pierre, mais surtout ce qui est important, c'est de se mettre en présence. Donc ça veut dire ralentir un peu tous nos systèmes intérieurs qui sont plutôt sur le futur et en train d'imaginer tout ce qu'on va faire après. Et de se dire là, ici et maintenant, je me pose et j'essaye de sentir que j'inscris ça dans mon éternité. C'est comme si on imagine que le temps est comme une sorte de continuum comme ça qui se déroule. Et que là, maintenant, je mets un petit point, comme un petit menhir d'ailleurs, comme un point d'acupuncture dans mon continuum. Et je dis là, maintenant... Je m'arrête, je respire et je prends le temps d'être là. Et j'essaie d'inscrire ce moment précieux dans le flux éternel des choses. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui me ressource énormément.
Que diriez-vous par exemple à quelqu'un qui doute justement de l'existence de ces énergies?
Alors je dirais que de tout temps, l'humain a cherché ce genre de haut lieu d'énergie et beaucoup de personnes étaient très reliées à leur instinct autrefois. Que le doute vient souvent d'un esprit un peu cartésien qui a besoin de comprendre les choses, et c'est très bien de vouloir comprendre les choses parce que ça nous protège aussi de beaucoup de déviances quand on croit un peu tout ce qu'on nous dit. Donc je peux comprendre qu'il y ait le doute, mais après j'inviterai les gens à ressentir parce que c'est quelque chose que nos ancêtres faisaient, tout le monde autrefois, et ça fait partie de notre histoire et c'est aussi une façon de se relier à nos ancêtres, au vécu de notre terre. Donc simplement prendre le temps et essayer, de toute façon il risque rien dans l'absolu, à part passer un chouette moment avec une pierre ou un arbre dans la nature, il n'y a pas plus de risque que ça. Donc j'invite souvent à lâcher un petit peu ce besoin de tout comprendre, parce que franchement on est d'accord, vous et moi Claire, vouloir tout comprendre c'est épuisant.
Tout à fait, il faut lâcher prise. Voilà. Et puis est-ce que quand on est dans des lieux comme ça, est-ce que c'est comme pour les arbres, si on a envie d'enserrer dans nos bras un arbre, est-ce qu'il faut aussi toujours demander la permission?
Alors, on considère que chaque chose dans la nature est vivante et chaque être vivant n'aime pas qu'on lui saute dessus comme ça pour lui faire un câlin. Les humains avant tout, mais les arbres aussi. Et moi, je ressens une sorte de rejet, comme si on me repousse si je vais trop vite vers un arbre. Donc, je prends toujours le temps de l'approcher en douceur, de lui expliquer que j'aimerais m'appuyer contre lui. Et puis ensuite, je vais m'approcher de lui. Mais c'est, je vous avoue, c'est très rare que je fasse un câlin à un arbre. J'aime beaucoup plutôt m'asseoir le dos contre le tronc, puis prendre un temps d'être sous sa couronne. J'ai pas forcément le besoin de lui faire un câlin. C'est seulement avec certains arbres que je vais prendre ce moment-là un peu particulier.
Le chêne, j'imagine.
Ah oui, le chêne. Et puis certaines autres essences que j'aime beaucoup, c'est des arbres souvent particuliers. C'est toujours les mêmes. Donc c'est pas une essence, c'est vraiment un arbre à un endroit précis vers qui, quand je vais leur faire systématiquement un câlin. Ça peut être différentes essences. À part ça, il y a un autre exercice que j'aime beaucoup faire. C'est un exercice où on s'appuie le dos contre l'arbre et on va mettre notre main gauche sur notre cœur et la main droite contre l'écorce de l'arbre. Et vous prenez un temps pour respirer comme ça. On appelle ça l'étreinte enchantée. Et là, en fait, on offre l'énergie de notre cœur à l'arbre. Et j'aime bien commencer par offrir qui je suis à l'arbre. L'idée, c'est pas de lui déposer tous nos soucis, mais juste se présenter à lui. Et ensuite, au bout d'environ une minute, on va échanger, on va mettre notre main droite sur notre cœur et la main gauche contre le tronc de l'arbre. Et là, c'est l'énergie de l'arbre qui vient à notre rencontre. Et ça crée une rencontre entre un arbre et un individu. Et je trouve que c'est un très très beau moment et j'adore faire ça.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
L'air de jeu qui se continue avec vous Claire et Joël Chautan.
Et oui, pour vous parler des hauts lieux d'énergie de Suisse romande, un guide qui a été réalisé par Joël Chautan. Ça lui a pris 4 ans quand même pour le réaliser parce que il faut aller visiter ces lieux et tout. Alors Joël, est-ce qu'il y a des lieux qui, entre guillemets, vous parlent plus que d'autres et ça se manifeste comment ?
Alors j'ai des lieux coup de cœur vraiment où j'aime beaucoup aller. Je crois que c'est par la beauté déjà avant tout, et puis par l'atmosphère qui s'y dégage et puis le lien affectif que je vais avoir avec cet endroit. Alors un lieu qui me touche beaucoup dans le canton de Neuchâtel, c'est la forêt du Devant.
C'est où ?
Elle est en-dessus de Gorgiers. Il y a quand on monte la route de Montalcher. En direction de Montalcher, c'est à un moment donné sur la droite. Il y a un centre pour les personnes qui souffrent d'alcoolisme, sauf erreur. Là, on va arriver vers un abri forestier. Et dans cette forêt, il y a plein de pierres, entre autres un magnifique menhir. Et je suis amoureuse de ce menhir. J'adore y aller. J'aime beaucoup ce qui se dégage de lui. Et puis, le fait déjà de voir un menhir qui est quand même un vestige majestueux. C'est mon coup de cœur.
Oui, parce que les menhirs, ils ont aussi toute une symbolique. C'est comme aussi ces grandes pierres qui servent de table, en fait.
Oui, alors les cromlechs qu'on a, les dolmens.
Voilà.
Bien sûr. Alors, des dolmens, on en a moins. Il y en a un qui a été retrouvé près d'Autrive, et puis il y en a qui ont été retrouvés près de Honnan. Il y a des dolmens, mais c'est un élément un petit peu plus rare. Et c'est des lieux majestueux. Après, les dolmens ont une fonction aussi funéraire, ce qui n'est pas le rôle du menhir. Donc le menhir, quand on va vers lui, généralement, on est sûr que c'est un lieu plutôt positif.
Lorsque l'on évoque justement ce monde celtique, on pense évidemment à la forêt de Brocéliande en Bretagne. Est-ce que vous y êtes déjà allé ? Et puis, est-ce que ça a un côté magique, cette fameuse forêt de Brocéliande ?
Alors oui, j'y suis allée parce que j'ai écrit un guide qui s'appelle « Mégalithes de Bretagne » qui est sorti il y a 2 ans. Qui regroupe une septantaine de sites en Bretagne. Donc à peu près le même guide que celui des hauts lieux d'énergie de Suisse romande, mais sur la Bretagne et coécrit avec le druide qui m'a initié druidesse, qui s'appelle Pascal Lamour. Donc si vous allez en Bretagne et que vous avez envie de vous accompagner d'un guide pour rencontrer les hauts lieux d'énergie de Bretagne, il s'appelle Mégalithes de Bretagne, aussi paru aux éditions Favre. Et oui, alors je suis allée à la forêt de Brocéliande, d'ailleurs elle y est, sauf erreur, dans le livre un lieu particulier qui est le Val sans retour. Mais après, il faut dire quand même que mon coup de cœur va pour la forêt de Wellgoat qui est dans le Finistère, qui est encore plus magique.
Et cette magie se transforme et pour vous, vous la ressentez de quelle façon ?
Alors, je la ressens dans une sorte de pétillement dans le corps et puis la sensation que cette forêt, elle est habitée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous qui nous écoutez, mais il y a des forêts où on a l'impression que c'est habité de 1000 présences. Et la forêt de Wellgoat, il y a vraiment ça. Après, elle est beaucoup plus luxuriante que Brocéliande qui est plus sèche. Donc aussi, ça donne un côté un petit peu très vert et très... magique, comme ça, on a l'impression que les contes et légendes sont à portée de main, qu'il pourrait y avoir des fées, des lutins, des gnomes qui viendraient comme ça directement courir dans nos pieds. Et on la sent très fort dans cette forêt, mais pareil à Brocéliande.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et vous savez ce qui met de bonne humeur également, c'est quand nos défis sont réalisés, Claire. Vous êtes de bonne humeur, non ?
Ah oui, mais aux côtés de Joël Chautan, on se sent bien, on se sent zen. Elle dégage justement quelque chose de positif qui nous relaxe également. Puis figurez-vous, mon cher Mike, il y a une charmante jeune fille qui vient d'arriver avec des pierres aussi. Oh, que c'est triste. Et puis, ben voilà, la première qui est arrivée, c'est Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour Claire.
Comment allez-vous?
Je vais bien, merci beaucoup.
Alors, vous avez entendu notre défi et parlez-nous de la pierre que vous nous avez apportée.
Écoutez, pour moi, elle est très mystérieuse parce qu'elle a appartenu à mon papa, que j'adorais. Il l'avait toujours à la maison et quand j'ai perdu mon papa ça fait une dizaine d'années, c'est une chose que j'ai dû prendre avec moi parce que je l'affectionne. Elle a tous ses mystères, mais j'aime cette pierre parce que pour moi, elle représente la nature, elle représente les animaux, elle représente les pierres, elle représente l'âme de mon papa. Donc pour moi, tout est regroupé là-dedans.
En fait, c'est un fossile.
Oui, c'est un fossile. Je ne sais pas du tout d'où il vient, combien d'années il a, mais je le sens bien vivant. Et puis, c'est une pierre que j'ai toujours eu envie d'avoir avec moi. Et quand vous avez parlé du défi ce matin, c'est celle-là qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, il faut que je monte à boule avec cette pierre et puis vous rencontrer aussi, parce que j'ai toujours entendu votre voix et ça me fait très plaisir de voir votre visage avec plein de douceur, c'est vrai.
Merci beaucoup. Vous habitez où, Dominique ?
À Colombier.
Oui, c'est pas très loin, hein, Colombier, Boule.
Oui, tout à fait, je suis pas très loin d'ici. Et puis, je connais déjà un petit peu Joël et j'adore. Et c'est vrai que je me suis régalée de l'entendre ce matin parce que c'est un puits de connaissances et de bienveillance.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Et l'air de jeu qui se conclut gentiment, Claire, comme vous l'avez dit avant, quand on est bien accompagné, le temps passe vite, je le confirme.
Et oui, on a passé vraiment une magnifique matinée. Joël, si vous pouviez emmener les auditeurs dans un seul lieu magique, ce serait lequel ?
Ah ben, ce serait la forêt du Devant, comme on en a parlé là tout à l'heure. C'est un lieu que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Oui, c'est un lieu où j'aurais beaucoup plaisir à accompagner les auditeurs jusque dans cette forêt pour leur présenter la magie de cet endroit.
Et maintenant que vous avez réalisé cet ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines, vous vous attaquez à quoi maintenant? Vous avez d'autres projets, d'autres lieux que vous avez envie de faire découvrir?
Alors, quand je termine un livre, j'aime bien prendre quelques mois de pause. Mais j'ai déjà deux idées d'ouvrages. Bah, généralement, j'en parle pas beaucoup à l'avance parce que c'est ma façon à moi de garder le projet et l'énergie. Je suis très sensible à ça pour moi, pour pouvoir l'utiliser correctement. Mais sinon, au-delà de ça, et ça j'en parle volontiers, je suis en train d'écrire un roman, une histoire qui raconte l'histoire du druidisme, mais sous forme romancée en Suisse, avec du coup toute la sagesse druidique qui sera du coup mise dans ce livre à portée de main, sous forme romancée, et mais aussi avec plein de savoirs historiques et plein de savoirs initiatiques dissimulés dans cet ouvrage.